et bienvenue sur Donors Tips, le podcast qui rapproche les donateurs des fundraisers. Je suis Émilie Compini, fondatrice de EC Consulting, basée à Genève, qui propose une expertise pour les organisations à but non lucratif en collecte de fonds, création de projets, processus internes et accompagnement d'organisations souhaitant s'installer à Genève. Je suis également co-directrice du programme de formation exécutive Mastering Fundraising Practices à l'Institut des Hautes Études Internationales à Genève, intervenante dans le CASDAS en philanthropie stratégique à l'Université de Genève, et formatrice et coach en collecte de fonds pour le collectif Isango à Lausanne et le Cirque Impact basé à Dakar. Chaque mois, j'interview des donateurs institutionnels suisses ou internationaux afin qu'ils puissent vous transmettre des informations clés et des astuces pour une collecte de fonds réussie. Bonne écoute. Alors qu'une nouvelle année commence, je vous propose de prendre un temps rétrospectif sur tout ce que nous avons traversé collectivement et sur comment cela a impacté le secteur associatif ces dernières années. Une pandémie et de nombreuses guerres ont entraîné une hausse spectaculaire du coût de la vie en Europe, entraînant une crise sanitaire, sociale et économique. Si tout cela nous touche individuellement, le secteur à but non lucratif n'a pas été épargné. Au niveau européen, le montant des dons des particuliers a diminué de 32% en 2022 par rapport à 2021. Dans de nombreux pays, comme l'Irlande par exemple, près de la moitié des organisations caritatives ont constaté une augmentation de la demande pour leurs services, alors que les dons ont diminué de plus de 30%, créant ainsi des conditions plus difficiles en matière de collecte de fonds. Même si le secteur à but non lucratif s'est montré agile, résilient et parfois même innovant, la question de leur modèle économique et de leur professionnalisation se pose. Comment les accompagner au mieux pour les armer face aux nouveaux enjeux sociaux, environnementaux et économiques de nos sociétés en constante évolution? Les dirigeants d'ONG et d'associations n'ont-ils pas tout intérêt à adopter une posture plus entrepreneuriale? Pour aborder ce sujet complexe, mais aussi parler d'entrepreneuriat en France, j'accueille Louis Gaucheran, chargé de développement chez la Fondation Entreprendre. La Fondation Entreprendre est une vraie pépite, comme j'aime à la surnommer, qui a adopté une toute nouvelle façon de faire dans le collectif, en créant des ponts solides entre l'entrepreneuriat, la philanthropie et le milieu associatif. Et je me réjouis de vous la présenter. Bonjour Louis, bienvenue dans Donors Tips.
Bonjour Émilie, merci beaucoup de m'accueillir.
Avec grand plaisir, un beau sujet à découvrir ensemble. Alors pour une première question, est-ce que tu pourrais s'il te plaît nous présenter en quelques mots déjà l'histoire et la mission de la Fondation Entreprendre ?
Oui, tout à fait. Alors, la Fondation Entreprendre, c'est une fondation qui a été créée il y a 15 ans. Elle est reconnue d'utilité publique et c'est une fondation qui est abritante et qui agit pour la cause entrepreneuriale. On a en fait pour mission de faire de l'entrepreneuriat un levier d'émancipation pour créer collectivement une société inclusive et durable. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? En fait, concrètement, la Fondation Entreprendre, elle finance et elle accompagne les associations d'intérêt général pour leur permettre de se développer, de coopérer, d'innover en faveur de la cause entrepreneuriale. Et on a aussi pour mission de structurer l'ensemble de cet écosystème à agir en adoptant une approche systémique. Et donc, notre approche systémique, elle se traduit à travers trois modes d'action. Tout d'abord, le lab pour identifier les signaux faibles de l'entrepreneuriat, mais aussi pour nourrir cet écosystème, ce riche écosystème de l'entrepreneuriat. On a aussi la réponse collective qui apporte des solutions sur des programmes à enjeux sur 3 ans pour apporter des solutions à des problèmes qui sont peu ou mal ou pas du tout adressés. Et enfin, l'accélérateur pour structurer et accompagner la pérennité de l'écosystème associatif qui agit pour la cause entrepreneuriale sur un temps qui est là aussi conséquent. Et en fait, au total, les associations que l'on accompagne, elles répondent à nos 3 enjeux prioritaires que sont tout d'abord réduire les inégalités face à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'à la Fondation Entreprendre, on est convaincu que les compétences entrepreneuriales et l'esprit d'entreprendre sont un réel levier d'insertion pour toutes et tous pour engager une insertion professionnelle, mais aussi personnelle. On a aussi un deuxième enjeu qui sont les territoires, parce qu'on est également aussi fortement convaincu que l'entrepreneuriat est un levier pour développer les territoires en fragilité. Alors, qu'est-ce qu'on entend par les territoires en fragilité? Ce sont les territoires qui sont souvent éloignés des grands centres décisionnaires, des grands centres urbains, et donc ce sont les territoires ultramarins, les quartiers prioritaires de la ville, les territoires ruraux, et mais aussi les grandes et les pardon, les petites et moyennes villes. Et enfin, on a un troisième grand enjeu qui est de porter la voix d'un entrepreneuriat utile, c'est-à-dire que on porte la vision d'un entrepreneuriat qui est engagé sur le défi de société. Donc au total, on accompagne une trentaine d'associations d'intérêt général et grâce à notre accompagnement, l'ensemble de ces associations ont permis la création en 2022 de 22 000 entreprises en France et la création de 54 000 emplois.
Ce qui est énorme, c'est vrai qu'on moi qui travaille beaucoup par exemple sur des qui accompagne beaucoup d'organisations sur des thématiques plutôt internationales. On sait que l'entrepreneuriat ou la génération de revenus, c'est aussi une grosse thématique qui est traitée, par exemple, par les ONG et puis à l'international. Mais c'est vrai que très souvent, on ne prend pas aussi le temps de regarder ce qui se passe chez nous et le besoin aussi qu'il y a à ce niveau-là. Et je trouve ça particulièrement intéressant, du coup, que la Fondation Entreprendre se positionne vraiment sur ce sujet-là, avec un accompagnement qui me paraît quand même assez essentiel, parce que c'est vrai que quand on regarde un petit peu les challenges en fait que peuvent vivre les entrepreneurs en France et même dans d'autres pays en Europe, c'est particulièrement important d'avoir des acteurs qui se mobilisent autour de cette thématique. Tu mentionnais les trois modes d'action principaux que vous avez, donc qui sont l'accélérateur pour structurer, la réponse collective pour innover et puis éclairer avec le lab. Est-ce que tu peux nous donner un tout petit peu plus de détails sur l'accélérateur et justement l'accompagnement des associations que vous faites dans ce cadre-là?
Alors peut-être en t'écoutant, je disais que je pouvais revenir aussi sur les trois modes d'action, en faisant évidemment ce focus sur l'accélérateur, mais pour bien comprendre aussi la spécificité du positionnement de la Fondation Entreprendre, qui est assez unique, en tout cas dans la sphère de l'écosystème entrepreneurial. Tu mentionnais le lab, effectivement, donc tout à l'heure, c'est dans ce lab, en fait, on finance des études de manière ponctuelle pour identifier des thématiques clés et nourrir l'écosystème associatif de l'entrepreneuriat et pour lui permettre d'anticiper les grands sujets de demain. Et par exemple, dans ce lab, on a lancé une étude sur le micro-entrepreneuriat pour identifier les zones à risque et éviter la précarité des micro-entrepreneurs. Mais on a aussi pensé ce lab pour développer et soutenir des opportunités et de groupes de travail. Et pour te donner deux exemples concrets là aussi, on a lancé une prospective sur ce que pourrait être l'entrepreneuriat souhaitable en 2040. Donc comment est-ce que l'entrepreneuriat de demain pourrait répondre aux grands défis de demain. Et puis, il y a aussi l'initiative Racine que nous avons créée et qu'on comporte avec d'autres acteurs de la philanthropie et avec qui on travaille sur justement l'approche systémique du changement. Donc on a un deuxième modalité que tu mentionnes également qui est la réponse collective qui a pour objectif donc vraiment de financer des expérimentations, des innovations de terrain. Donc là c'est un accompagnement qui est plus sur du long terme par rapport au lab. On est vraiment sur un accompagnement de 3 ans. On constitue une alliance de financeurs pour permettre à un collectif d'associations de créer et d'expérimenter de nouvelles solutions qui répondent à un besoin peu ou pas du tout adressé. Et donc l'ambition de cette modalité d'action, c'est vraiment d'éprouver les solutions que l'on met en place collectivement et les développer à plus grande échelle grâce à une démarche de R&D et d'innovation sociale qui permet d'une part de capitaliser sur les enseignements du programme et d'autre part, de favoriser plus largement l'appropriation des solutions et du sujet au-delà de ce collectif. Et puis enfin, donc l'accélérateur sur lequel évidemment je vais développer un peu plus, mais si tu veux, l'accélérateur, on l'a vraiment pensé pour faire face à un constat. qui est que aujourd'hui les associations on rencontre les mêmes problématiques de fonctionnement que les entreprises. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est que les associations, elles représentent un poids conséquent dans notre économie. Elles représentent à peu près 3,3% du PIB en France, ce qui représente environ 113 millions de milliards d'euros, pardon. Et donc, elles ont, face à ce, enfin, comme les entreprises, elles participent au développement de notre économie. Et aujourd'hui, on se rend bien compte, dans le secteur de la philanthropie, qui a énormément évolué hein, depuis les 10 dernières années, mais que la question du structurel, des frais de fonctionnement de ces associations-là est encore trop peu pris en considération. Aujourd'hui, pour te donner un chiffre, plus de 40% des mécènes ne financent pas les frais de structure de ces assos. Alors que c'est réellement un enjeu de taille. Parce qu'aujourd'hui, pour permettre à ces assos de mener des actions efficientes à 100%, elles ont besoin de s'appuyer sur une structure solide et professionnelle. Et donc, c'est pour faire face à ce constat-là qu'aujourd'hui, on a créé l'accélérateur dans lequel on souhaite donner à l'écosystème associatif de l'entrepreneuriat les capacités donc, de se structurer, à se consolider en les finançant et en les accompagnant sur 3 ans. Et en permettant de se développer. Et donc, cet accompagnement stratégique, il est vraiment pensé pour être sur mesure. Et donc, pour chaque association que l'on va accompagner dans le cadre de cet accélérateur, on va construire une feuille de route, on va définir avec elles leurs ambitions et on va essayer de répondre à leurs problématiques structurelles. Donc, qui sont des problématiques de ressources humaines, de modélisation de business model, mais aussi répondre à une stratégie, en tout cas à une volonté de décemer dans les territoires. Donc, en résumé, on apporte un financement sur 3 ans, qui est un financement assez conséquent, et que l'on accompagne par un accompagnement extra-financier tout au long de justement de ce parcours dans l'accélérateur et cet accompagnement extra-financier, c'est vraiment un apport de compétences pour les associations par la mobilisation soit de ressources internes à la Fondation Comprendre ou en faisant appel au réseau, à notre réseau d'ailleurs en fait, que l'on met au service des assos. Et donc aujourd'hui, dans le cadre de l'accélérateur, on accompagne 9 associations et qui fonctionnent par promotion. Donc, ça représente 3 promotions. On lance une nouvelle promotion chaque année. Voilà. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, plus haut, chaque association que l'on accompagne dans le cadre de cet accélérateur répond à l'un de nos enjeux prioritaires que sont l'égalité des chances, les territoires et l'entrepreneuriat utile. De la société. Pardon.
Vous n'avez jamais eu de chiffres sur justement le pourcentage de mécènes qui ne financent pas les frais de structure, et c'est vrai que c'est encore énorme de voir que 40% en tout cas des mécènes en France ne soutiennent pas ces frais de structure qui sont mais absolument essentiels. C'est effectivement, il n'y a aucune possibilité en fait de très peu de marge de manœuvre pour fonctionner correctement sans frais de structure. Parce que finalement, l'accompagnement via l'accélérateur, ça peut être comparé un petit peu à l'écosystème des startups avec justement cette flexibilité, cet accompagnement financier, extra-financier, peut-être, non?
Ouais, tout à fait. Alors pour revenir déjà sur le chiffre, d'ailleurs si tu as l'occasion, tu peux aller voir, c'est un mapping qui est sorti par le média CareNews, qui est sorti là en novembre. Et donc c'est assez édifiant et ça c'est vraiment le chiffre que j'en ai extrait parce que c'est comme tu dis, c'est quand même assez édifiant aujourd'hui. Enfin surprenant de voir que il y a encore plus de la moitié aujourd'hui des acteurs de la philanthropie. Qui ne finance pas justement structurel, alors qu'on sait qu'aujourd'hui, en fait, c'est la vision qu'on porte à la Fondation Entreprendre. Hein. Financer des projets, c'est très très bien, mais ça ne doit pas se substituer en fait, au financement des structures, puisque en fait, c'est grâce aux structures que les associations peuvent adopter une démarche vraiment systémique et de développer des projets pardon qui sont efficients et qui répondent au mieux aux besoins des territoires et de leurs bénéficiaires. Donc aujourd'hui, l'un ne va pas sans l'autre. En tout cas, c'est la conviction qu'on porte aujourd'hui à la Fondation Entreprendre. Et c'est vrai que on se veut vraiment, en tout cas sur le segment de l'entrepreneuriat, on se veut vraiment porte-drapeau de financement structurel. Et c'est vrai que ça pourrait complètement se rapprocher parfois de l'accompagnement que pourraient avoir certaines startups dans les incubateurs. Aujourd'hui, les dirigeants associatifs sont de vrais entrepreneurs. Donc, il y a une vraie démarche entrepreneuriale avec une vision, une stratégie à mettre en place. Voilà, c'est tout ce qu'on nous, on leur apporte un vrai accompagnement dans le cadre de l'accélérateur.
Merci beaucoup pour ces informations. Je regarderai effectivement sur Care News, si je retrouve le lien, je remettrai aussi le lien de cette étude ou de cet article dans le descriptif du podcast. Alors, je le mentionnais aussi, mais justement, outre cette difficulté à faire financer les frais de structure, les frais administratifs, qui est malheureusement bien connu dans le secteur, je mentionnais aussi les difficultés, parfois aussi en termes de collecte de fonds, en termes de résilience face à des crises. Quand je faisais l'introduction de ce podcast. Alors, selon toi, quels sont les leviers qui peuvent accompagner la résilience du secteur associatif, justement, et également sa capacité à innover?
J'en ai quatre en tête. Le premier, pour faire le lien avec ce que tu disais, tout d'abord, c'est l'agilité du milieu associatif. Pour garder ton exemple, là, ça fait qu'on a quand même pendant 3 ans, on a quand même traversé une crise sanitaire qui a débouché sur une crise sociale, économique, enfin, franchement, sans précédent. Et en tout cas, nous, moi, j'ai été frappé de voir à quel point le secteur associatif a su se mobiliser, mais très 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 rapidement, d'ailleurs tout secteur confondu, pendant cette crise sanitaire. Et pour prendre voilà faire un focus sur faire un focus qui pour moi le plus parlant, c'est à quel point les associations se sont mobilisées auprès de la jeunesse, notamment des étudiants qui étaient en grande précarité, qui faisait face à un isolement, à un manque de ressources financières, et donc de voir en fait à quel point elles sont mobilisées là où probablement hein, l'État ou même les entreprises privées n'ont pas su réagir dans l'immédiateté. Voilà, elles ont eu cette capacité vraiment à être agile, à changer de paradigme, à modifier leur modalité d'action et même à se transformer en fait, à transformer leurs outils et à passer très très rapidement en fait à une digitalisation de leurs outils. Donc ça pour moi c'est vraiment le premier levier de résilience de ce secteur associatif. Le deuxième ce serait la professionnalisation. C'est vrai que ça fait quand même plusieurs années que ce secteur associatif se professionnalise, renforce son expertise, et pour moi, c'est un vrai gage de pérennité. Et aujourd'hui, les associations, grâce à cette dynamique de professionnalisation, font vraiment valoir un savoir-faire unique et qui leur permet de structurer des réponses concrètes à des besoins concrets. Et donc ça, voilà, pour moi, c'est vraiment un levier aussi hyper important. Et il y a aussi cette capacité à mobiliser des ressources humaines à travers le bénévolat, aller chercher aussi des ressources humaines chez leurs partenaires avec du mécénat de compétences, à lever des fonds, à diversifier aussi les fonds qu'elles vont lever pour justement faire face à ces incertitudes, à ces crises sociales, politiques, économiques, mais aussi on voit, et pour faire le lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure, que les associations ont un réel poids aujourd'hui dans notre société. Et aujourd'hui, ça se traduit aussi par leur capacité à porter la voix des causes, des sujets qu'elles défendent. Et donc, c'est vraiment cette capacité à mettre en place à mobiliser, mais aussi à mettre en place des actions de plaidoyer. Et enfin, le dernier levier qui fait aussi résonance avec ce que l'on dit depuis tout à l'heure et qui est pour moi un enjeu clé, c'est le collectif. Une association seule aujourd'hui, elle peut pas résoudre tous les problèmes, elle peut pas répondre à tous les problèmes qu'on lui adresse. Et donc, il y a un réel enjeu à mobiliser d'autres acteurs, au-delà d'ailleurs de la sphère associative, hein, pour répondre de façon plus systémique et plus complémentaire aux problèmes auxquels elle fait face et auxquels elle a besoin de répondre. Et donc, c'est vraiment la capacité des associations à mettre en place des consortiums, à travailler en collectif, en toute intelligence, et à vraiment porter des solutions à plus grande échelle que si elle travaillait en silo. Et donc, voilà, ça c'est aussi, en tout cas, une vision et des valeurs que l'on défend à la Fondation et que l'on met en place aussi hein, concrètement dans le cadre d'une réponse collective.
Je vais refaire encore un parallèle avec le secteur du développement international, mais c'est vrai que dans les pays en développement, les associations ont ce fort rôle en fait de substitut parfois des services publics parce qu'ils n'ont pas encore la capacité de pouvoir délivrer sur tout un tas de domaines et dans la totalité de leur pays sur des thématiques, que ce soit le genre, l'éducation, les droits de l'homme, enfin différentes choses. Mais c'est vrai qu'on ne pense pas qu'en cas de crise, il y a aussi cette fonction qui est déjà existante, hein, bien sûr, du secteur associatif en France, qui vient aussi, alors, je sais pas si on peut dire se substituer, ou en tout cas soutenir ou renforcer en fait certains services publics, mais qu'en cas de crise, en fait, ce travail-là peut être vite multiplié et prendre une ampleur encore plus importante qu'au quotidien. En cas de période stable, par exemple.
Non, tout à fait. Et d'ailleurs, je rebondis sur un mot là en t'écoutant, c'est la question de substitution. Pendant très longtemps, même encore parfois aujourd'hui, hein, on peut avoir le réflexe de se dire le secteur associatif se substitue à l'action publique ou à l'action de certaines entreprises. Je pense qu'il est en tout cas il est urgent aujourd'hui de changer de paradigme et se dire aujourd'hui que les associations elles se substituent pas. Mais elle vient compléter l'action et vice-versa. Je pense que aujourd'hui, tu vois que cette notion de collectif, mais il y a vraiment un enjeu de créer des synergies communes et à mobiliser, et enfin à travailler ensemble, et à mobiliser des acteurs autres que l'associatif. Et aujourd'hui, il y a des initiatives qui existent et qui tentent de rapprocher justement ces acteurs publics du milieu associatif, des acteurs privés. Et c'est vrai que nous, typiquement, tu vois, à la Fondation, c'est la vie, enfin, c'est vraiment la conviction qu'on porte. Et dans nos réponses collectives, certes, on a des collectifs de financeurs, on a des collectifs aussi d'associations, mais on travaille, on sollicite aussi des acteurs du public qui sont aussi des acteurs d'ailleurs majeurs hein, des territoires. Et donc, on ne peut pas faire sans eux aujourd'hui si on veut se déployer, si on veut déployer des solutions avec et pour les territoires.
Et ça redonne aussi, je trouve, enfin, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, et je trouve que ça redonne aussi une partie et du pouvoir et de la responsabilité aussi aux citoyens de pouvoir se mobiliser pour différentes causes et pour pouvoir aussi changer les choses plutôt que d'être dans une posture un peu plus passive parfois où on peut attendre justement que ça soit le gouvernement ou l'État ou justement les services publics qui fasse quelque chose, alors qu'en fait, finalement, tout le monde a les moyens de pouvoir se mobiliser sur différents sujets.
Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que elles véhiculent en tout cas des valeurs très fortes hein, de démocratie, d'engagement. Elles sensibilisent aussi beaucoup les questions d'éducation et je pense qu'effectivement que leur capacité à être agile et à réagir quasiment dans l'immédiateté, mais avec suffisamment toujours c'est un savant mélange entre immédiateté et en même temps avec un peu de prise de hauteur. Elle redonne aussi sens à la notion d'engagement et de citoyenneté, ça c'est sûr.
Oui, tout à fait. Alors, je parlais en introduction du petit surnom personnel que j'ai décidé de donner à la Fondation Entreprendre, qui est la pépite. Alors, justement, la Fondation Entreprendre a adopté une posture assez particulière qui lui permet, qui vous permet d'avoir un pied dans le secteur philanthropique en tant que fondation donatrice et fondation abritante, mais également dans le secteur à but non lucratif en tant que collecteur de dons. Les questions que j'ai sur ce sujet pour toi, Louis, c'est est-ce que finalement cette posture est facile à tenir, cette posture un petit peu hybride? Est-ce que tu rencontres des difficultés particulières ou au contraire, est-ce que cela finalement facilite ton travail? Et est-ce que cela influence aussi d'une certaine manière vraiment votre posture de fondation donatrice vis-à-vis des organisations que vous financez et avec lesquelles vous travaillez?
Comme tu le disais, Émilie, c'est vrai que la Fondation Entreprendre a cette spécificité d'être à la fois une fondation collectrice, mais à la fois redistributrice. Et pour moi, ça en fait vraiment un atout, c'est qu'on est dans une posture qui est particulière et qui est très enrichissante du point de vue de nos financeurs, parce qu'en fait, on se place sur un pied d'égalité avec eux, on est sur un rapport d'égal à égal, et donc on est... on est vraiment dans une dimension de partenariat qui est hyper enrichissante, où il y a un travail vraiment collectif qui est fait pour vraiment s'inscrire dans cette démarche de changement systémique, voilà, on les sensibilise aussi à cette notion de s'inscrire dans le temps, de soutenir dans le temps les associations de la cause entrepreneuriale. Mais aussi du point de vue des associations, on a une réelle proximité avec elles qui fait qu'on, même si la fondation évidemment n'est pas sur le terrain, puisqu'on accompagne les associations qui sont elles des acteurs de terrain, mais parfois c'est tout comme parce que la proximité que l'on entretient avec elles nous permet d'être vraiment dans le cœur du réacteur et de les accompagner sur des problématiques, comme je dis, vraiment prégnantes. Et qui sont vraiment, enfin, qui imprègnent leur quotidien et leur action.
Est-ce que pour peut-être reprendre aussi, je sais que j'avais beaucoup de questions, peut-être pour reprendre la dernière question, dans la manière dont vous travaillez avec les associations que vous soutenez, est-ce que ça vous permet de voir en fait un petit peu les choses autrement, par exemple par le fait que vous collectez aussi des fonds, donc vous comprenez en fait parfois la difficulté aussi de collecter des fonds. Est-ce que ça a un impact ça sur votre posture?
Oui, tout à fait, ça a un impact parce que je dirais que ça nous permet de répondre mieux aux besoins d'accompagnement des associations, et notamment sur cette question précise de levée de fonds. C'est qu'on est en mesure vraiment de parler d'égal à égal. Les associations, en tout cas, je pense, sont suffisamment décomplexées pour justement nous partager leur problématiques, puisqu'elles savent aussi, en connaissance de cause, que l'on peut aussi, en tant que fondation collectrice, rencontrer ces mêmes problématiques. Et donc aujourd'hui, on met en place des solutions et un accompagnement que l'on pourrait appliquer à la fondation en entreprendre. Donc c'est ça que cette proximité, cette question de levée de fonds, pour moi, elle est fondamentale. Et elle est d'autant plus fondamentale que ça nous permet aussi de plaider un peu la cause des associations que l'on finance auprès de nos partenaires. Et on a de la chance qu'on a vraiment des mécènes, des partenaires, même des donateurs qui sont vraiment dans cette dynamique. Et donc vraiment là, j'en profite pour les remercier pour leur accompagnement. Mais c'est vrai qu'on en profite pour porter la voix de ces associations-là auprès de ces partenaires pour leur faire comprendre à quel point il est nécessaire d'accompagner ces associations vraiment financièrement. Vraiment dans la durée pour leur permettre de se déployer, de mettre en place des projets et qui soient les plus efficients possibles et qui soient pérennes, en fait, surtout.
Oui, il y a vraiment ce rôle en fait de clé, de catalyseur et ça donne aussi un bon exemple, je trouve très concret. On parle beaucoup dans le secteur philanthropique de la dynamique des pouvoirs ou de power dynamic en anglais. Et je trouve que c'est un exemple très concret de justement comment finalement faire en sorte que ça soit plus une problématique puisque il y a justement beaucoup plus, en tout cas de ce que j'entends dans ce que tu dis, il y a vraiment cette confiance et cette transparence qui se met en place presque naturellement de par votre statut un petit peu hybride.
Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, quel que soit, je pense, hein, le positionnement, qu'on soit financeur ou financé, je pense que la clé de la réussite, c'est vraiment la transparence. et la communication, en fait, quelle que soit la posture que l'on adopte. Et c'est pour nous, en tant que fondation, entreprendre, c'est d'autant plus important et d'autant plus facile de par nos deux casquettes. Mais c'est vrai que c'est, en tout cas, c'est pour moi, c'est vraiment une des clés de réussite et de pérennité, voilà, dans la collaboration, dans le cas de partenariat.
Oui, et je suis bien d'accord avec toi. J'ai une dernière question, Louis. Côté tips, quels sont selon toi les modèles économiques émergents pour le secteur à but non lucratif? Et que conseillerais-tu à une organisation qui souhaiterait aborder ce changement avec sérénité?
Ouais, alors comme je te le disais un peu avant qu'on commence le podcast, j'ai un peu contourné la question, parce que pour moi, en fait, le tip pour que j'ai envie de partager et qui est un peu le fil rouge de notre échange aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment urgent que le collectif soit une manière de faire qui soit presque systématique, pour vraiment développer cette fameuse portée systémique, pour permettre justement aux associations de mobiliser d'autres acteurs, que ce soit pour leur projet, pour que ce soit sur la question des financements. Et aujourd'hui, je peux vraiment que conseiller aux associations, vraiment conseiller d'aller chercher du collectif, pour désiloter les actions. Et c'est que nous, on voit aujourd'hui à la Fondation Entreprendre, avec un peu de, justement, un peu de prise de hauteur, que les associations qui se rencontrent, qui travaillent ensemble dans les territoires, à quel point ça démultiplie la puissance de leur projet et leur capacité d'agir. Et c'est vrai que souvent, on a l'impression, il y a toujours un peu cette course au financement, aux subventions publiques, et on a toujours l'impression que si on travaille avec d'autres acteurs, on va être amputé d'une poche financière. Alors que je pense que c'est tout le contraire. Aujourd'hui, on a tout intérêt à travailler ensemble pour justement aller chercher, diversifier les sources de financement et profiter d'ailleurs des expertises des uns et des autres pour justement aller chercher d'autres sources de financement qu'on n'aurait peut-être pas, qu'on serait peut-être pas allé chercher tout seul. Voilà, donc ce serait vraiment, pour résumer, ce serait vraiment mon conseil, c'est vraiment de favoriser le collectif quand cela évidemment est pertinent.
C'est vrai qu'il y a maintenant, il y a quand même énormément de formations proposées par différentes structures pour justement aider le secteur associatif à se professionnaliser, à se structurer. Mais c'est vrai que finalement, ce qu'on appelle l'apprentissage entre pairs reste extrêmement, enfin, a énormément de valeur parce que ça permet d'échanger vraiment sur les bonnes pratiques des uns et des autres. Et puis que, comme tu disais, en parlant de mettre en commun des expertises, ça peut être tant sur des projets ou des approches, des manières de faire, mais aussi au niveau structurel, au niveau plus voilà, administratif, collecte de fonds, etc. Et c'est toujours intéressant. C'est vrai que j'ai toujours déploré surtout au niveau de la collecte de fonds. Je trouve ça extrêmement dommage qu'il y ait vraiment encore cet état d'esprit de concurrence où il faut surtout pas partager des contacts ou des informations si on a trouvé un bailleur, etc. Alors que quelque part à mettre en commun parfois, alors ça se fait un petit peu de temps en temps, je l'ai déjà vu, commence à le voir parfois, mais c'est encore loin d'être la majorité, mais de mettre en commun même parfois des bases de données, des informations, c'est extrêmement riche pour tout le monde, et je pense que tout le monde finit par tirer son épingle du jeu quand on a justement cette approche beaucoup plus collective comme tu en parlais.
Ouais, tout à fait. Et puis, je pense que c'est aussi important de dire que travailler ensemble, ça ne dénature pas les ADN de chaque structure. Au contraire, je pense que ça vient les renforcer et les compléter. Donc, ouais, on ne peut que conseiller de travailler ensemble, encore une fois.
Tout à fait. Et je pense que le message sera bien passé. Merci beaucoup, Louis. On arrive, j'ai envie de dire malheureusement, parce que j'aurais bien encore discuté des heures de ce sujet avec toi. Mais malheureusement, à la fin de ce podcast, on a abordé énormément de choses sur la mission de la Fondation Entreprendre, sur votre position assez particulière dans votre manière de vraiment d'aider les associations à se structurer, dans la manière aussi, dans votre ADN. Tant que fondation donatrice et abritante, mais aussi fondation qui collecte des fonds. On a pu, grâce à toi, avoir des pistes de réflexion extrêmement intéressantes autour de la résilience aussi d'une association avec l'agilité, la professionnalisation, la capacité à mobiliser, que ce soit mobiliser des fonds, mobiliser des ressources, même au niveau des sujets, de la capacité de plaidoyer. Et encore une fois, cet aspect de collectif que l'on vient encore d'aborder. Merci beaucoup, Louis, pour ton temps et pour tous ces éléments extrêmement précieux. Ça a été un plaisir de te recevoir dans Donner Steps.
Merci beaucoup, Émilie. C'était un plaisir, d'être reçue et de partager ce sujet passionnant avec toi.
Si vous avez aimé ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Partagez-le sur vos réseaux sociaux et surtout, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Pour plus d'informations sur mes services, rendez-vous sur mon site internet ec-consulting.ch. À bientôt!